Comment écrire la guerre à la hauteur d'homme? Que fait la guerre aux hommes? Comment s'y engage-t-on? Comment les transforme-t-elle? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Roman Hué, auteur de l'ouvrage « La guerre en tête, sur le front de la Syrie à l'Ukraine ». Ce livre tiré de plusieurs mois d'expérience sur les terrains de guerre en Syrie et en Ukraine. Ce livre est un récit ethnographique de la guerre.
Bonjour Roman, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme sociologue ethnographe, peut-on dire comme ça, comme enseignant, chercheur, un peu comme journaliste en tout cas, te présenter en Ukraine dans cette qualité durant tes derniers voyages. Nous on se connaît depuis pas mal d'années, en tout cas depuis Maïdan. Tu es auteur du livre qui vient de sortir qui s'appelle « La guerre en tête de la Syrie à l'Ukraine », le livre où tu racontes tes expériences et ton analyse de ce que tu avais vu en Syrie pendant la révolution et pendant la guerre, et tout aussi bien qu'à l'Ukraine. Pendant la guerre de grande échelle qui avait commencé en 2022-2023, tu dis dans ton livre une phrase que j'ai retenue en fait parce que qui m'a frappée. Tu expliques que tu veux écrire la guerre à la hauteur d'hommes. Je rajouterai bien sûr aussi de femmes, mais est-ce que tu peux expliquer au départ qu'est-ce que tu comprends par cette ethnographie de la guerre qui est ton approche?
Bonjour Tetiana, et effectivement ça fait longtemps qu'on se connaît, donc je suis vraiment content de parler avec toi. Mais disons que l'idée c'est que très souvent quand on aborde des conflits armés, que ce soit d'ailleurs des conflits, le conflit syrien ou l'Ukraine, très souvent en fait on le fait d'un point de vue géopolitique, avec une analyse évidemment du jeu des nations, etc., et leur effet effectivement en concret sur la guerre, quoi. Moi, je pense que c'est très intéressant de le faire et c'est évidemment très nécessaire de le faire, sauf que moi j'ai choisi de faire un petit peu autrement, c'est-à-dire d'écrire un peu la guerre par sa quotidienneté, sa vie quotidienne, son déroulé à partir des gens qui le vivent. Donc que ça soit en Syrie ou en Ukraine, à chaque fois j'ai essayé de m'approcher en fait de ce qu'on pourrait appeler des volontaires qui ont une particularité commune, c'est que pour la plupart des gens que j'ai pu rencontrer, ce sont des gens qui n'étaient pas préparés à la guerre. C'est-à-dire que ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des militaires, mais en raison d'un motif politique, en raison d'une cause qui est la leur, eh bien, ils décident de s'engager, dans un certain nombre de cas, de prendre des armes, dans le cas de l'Ukraine, pour défendre l'intégrité du territoire. Pour le cas de la Syrie, c'est pour un espoir révolutionnaire. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est de comprendre à la fois, en fait, ce que moi j'appelle un basculement subjectif. Qu'est-ce qui fait que soudainement, un jour, le cours normal de la vie est totalement interrompu et on décide en fait d'avoir une relation tout à fait active en fait avec son présent, relation active ici qui peut passer par le fait de prendre les armes, mais pas seulement, hein, ça peut être aussi bien sûr des personnes qui s'engagent dans du volontariat humanitaire, dans des secours, dans volontariat médical par exemple, en Ukraine effectivement j'ai pu voir pas mal de personnes, d'hommes et de femmes bien sûr, eh bien, qui ont décidé en fait de ne pas être spectateur ou spectatrice impuissant de la situation qui était en train de se dérouler de devant eux. Et donc moi, ce que j'analyse, c'est ça, c'est comment en fait comment se décide en fait ce passage, ce basculement. Et puis bien sûr aussi, c'est de le confronter avec la vie ordinaire, avec la vie quotidienne, parce que il me semble que effectivement, cette vie quotidienne à l'intérieur de la guerre, c'est pas qu'on la connaît pas ou pas très bien, c'est que je pense qu'il faut sans cesse la réécrire parce que on la rend sinon beaucoup trop abstraite. Or, cette violence vécue, elle est véritablement intimement vécu, et elle produit des effets considérables sur, sur les personnes, sur la subjectivité. Et donc, moi, ce que j'analyse, c'est vraiment comment la guerre, en fait, transforme ces gens ordinaires.
Oui, tout à fait. Donc, vivre cette expérience de guerre, décrire le quotidien de la guerre, comprendre les raisons, comprendre les motivations, et aussi être à côté comme observateur, parce que tu vois, toi, pour écrire ce que tu as écrit dans ton livre, tu avais passé beaucoup de temps, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine, à côté de révolutionnaires en Syrie, militaires, combattants en Ukraine, aussi volontaires en Ukraine, que ce soit à Kharkiv, que ce soit à Severodonetsk ou à Tchassiviar. Il y avait une chose qui m'avait surpris dans ton livre, parce que je me rappelle que nous nous sommes retrouvés pour la première fois à Maïdan, c'était bien le début de 2014, si je ne me trompe pas, c'était en janvier. Et donc, dans ton livre, tu écris souvent que en Syrie, on rencontre ce soulèvement actif, tandis qu'en Ukraine, c'est un soulèvement réactif, dans le sens que tu te concentres sur les événements de 2022-2023, et tu décris comme ça réaction à cette grande invasion. Et donc la question qui m'a surpris, pourquoi tu retraces pas en fait cette guerre que tu vois en Ukraine depuis Maïdan, parce que Maïdan non seulement il existe, mais tu l'as connu aussi toi comme aussi une petite révolution. Est-ce que pour toi il n'y a pas de suite entre Maïdan et cette guerre de grande invasion que tu avais aussi vue de tes propres yeux?
Si, évidemment qu'il y a évidemment une suite, une filiation, en tout cas il y a une genèse historique à faire que je ne fais pas en fait à la fois d'ailleurs sur la Syrie et à la fois sur l'Ukraine. Alors il y a plusieurs raisons à cela. La première, évidemment, c'est tout à fait difficile en fait de mettre comme ces deux expériences en fait dont on va dire les fondements politiques ou la situation politique sont fondamentalement différentes entre la Syrie et l'Ukraine. Donc moi je les mets évidemment pas du tout sur un même plan en fait. En tout cas, du point de vue de l'analyse. En revanche, ce que j'essaye de faire, et là où j'essaye de les mettre sur le même plan, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu commun, en fait, dans ce vécu de la guerre. Et c'est en ce sens-là que parfois, je vais alterner des récits des récits d'expérience en Syrie ou des récits d'expérience en Ukraine. Alors, je pense que ça fait partie d'un de mes, un des défauts de mes travaux, parce que je ne fais pas d'histoire, en fait. Je ne fais pas une histoire de l'Ukraine, une histoire de la Syrie. Je laisse le soin à d'autres de le faire, ils le font très bien, quoi. Vous voyez, je préfère le renvoyer en fait à ceux qui en ont la maîtrise. Moi, je suis un ethnographe en fait, quasiment de l'action en train de se faire, quoi. C'est essentiellement là mon point de vue. Alors, Maïdan, j'en parle très très brièvement, ou j'en parle aussi par la façon dont les gens que j'ai pu rencontrer en fait en parlent, même si, alors étonnamment, dans la plupart des personnes que j'ai rencontrées, ils étaient assez éloignés avec l'expérience de Maïdan. Très très peu en fait y étaient, ou voire même d'ailleurs très peu de combattants que j'ai rencontrés en fait avaient un rapport un peu positif avec cette expérience de Maïdan. D'ailleurs, la plupart d'entre eux n'étaient vraiment pas du tout politisés à la base, quoi. C'est vraiment la guerre qui les a politisés, quoi. Donc moi, je choisis en fait, si je fais une histoire en fait, c'est à partir de la façon dont les gens que je rencontre me le disent. Et donc le récit Maïdan, finalement, au fond, était assez peu présent dans tous les entretiens que j'ai pu faire. J'ai pu faire quand même au moins, une trentaine, une quarantaine d'entretiens en Ukraine. Et c'était très, très rare quand ça a été mentionné. Même si, bon, évidemment, moi, qui suis venu quelques jours en janvier à Maïdan, évidemment que ça a été d'ailleurs un premier rapport avec une expérience, sur le coup, évidemment, tout à fait révolutionnaire, quoi. La suite est ce qui s'est... c'est la suite de cette expérience de Maïdan. Je pense que on a quand même toute une série en fait d'intellectuels ukrainiens qui ont tout à fait raconté en fait, et qui racontent très très bien en fait comment on peut lire cette histoire. Et donc voilà, moi, plutôt que de mal le faire d'un discours un peu surplombant, je préfère en fait partir de la façon dont les gens me racontent leur propre vécu et leur propre engagement.
Oui, mais tout à fait. Donc, il y a, c'est vrai que les personnages, si on peut appeler ça comme ça, des gens qui sont présents dans ton livre, des Ukrainiens, des Ukrainiennes aussi, des femmes volontaires, et ils mentionnent très peu, c'est vrai qu'ils mentionnent très peu Maïdan et que, voilà, comme si l'histoire avait commencé en 2022. Or que c'est vrai que cette approche historique, Maïdan était bien présent et pour toute une génération, cette guerre à grande échelle est une continuation tout à fait claire de ce seul motivation à Maïdan. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi pour qui la motivation à Maïdan et pendant la guerre est la même. Mais bien sûr que ça dépend des individus et donc tu avais tombé sur d'autres. Tu fais très attention dans ton livre. D'ailleurs, je veux te féliciter parce que c'est un livre très nuancé, très fin en fait, très attentif à des motivations, au vécu des gens que tu rencontres. Et à chaque moment, tu essaies de faire à la fois des rapprochements, mais à la fois des distinctions entre ce que tu vois, ce que tu as vu en Syrie et ce que tu as vu en Ukraine. Est-ce que tu peux nous résumer maintenant pour nos auditeurs? En quoi est-ce que consistent les similitudes et les divergences entre l'expérience syrienne et l'expérience ukrainienne dans les événements historiques qui ont bouleversé les deux pays?
Alors, c'est effectivement un peu délicat d'en faire une synthèse brève, mais je peux déjà quand même avancer un certain nombre de points qui m'ont paru déjà communs, et puis évidemment que si quelques points de différence. La première chose qui est véritablement commune entre les deux, c'est une expérience de l'effondrement du monde. Et ça, moi, j'insiste beaucoup là-dessus dans mon livre, en disant que la guerre est avant toute chose cette expérience d'un monde qui s'écroule, d'un monde qui s'effondre. Quand je dis un monde qui s'effondre, c'est bien sûr un effondrement d'abord matériel du monde, comme c'est des destructions dont l'ampleur est absolument gigantesque dans les deux pays. C'est bien sûr aussi la destruction des vies humaines. Et là aussi, que ce soit en Syrie ou en Ukraine, évidemment, ce sont des guerres qui sont de très haute intensité, très meurtrières. La deuxième chose aussi, que je remarquais, c'est finalement, au fond, étonnamment, il peut exister chez certains et certaines un espèce de pouvoir d'attraction de la guerre. C'est-à-dire que comment, en fait, la question qui se pose, c'est comment on vit cet écroulement du monde. Et on pourrait supposer qu'on le vit uniquement avec effroi, qu'on le vit avec horreur, qu'on le vit avec panique, etc. Or, ces affects-là, évidemment, peuvent tout à fait exister. Mais ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait comme un moment, en fait, la guerre produit un espèce d'état astructurel. C'est-à-dire que toutes les formes, les normes, les habitudes, en fait, se défont, en fait, dans le moment de la guerre. Et les uns et les autres, en fait, vont se retrouver, en fait, des formes d'action, des formes de prise, en fait, sur leur présent. Très concrètement, en fait, il y a cette idée qu'il y a une forme de jouissance devant le fait d'intervenir dans le monde, de ne plus être cette espèce de sujet passif qui subit globalement, en fait, sa quotidienneté assez banale, quoi. Mais il y a plutôt cette idée, en fait, que dorénavant, en fait, je joue un rôle important, voire même, on peut utiliser le registre romantique, comme si je devenais soudainement, en fait, un sujet de l'histoire, là où je suis en train d'intervenir, que ce soit en étant un volontaire combattant ou un volontaire humanitaire, etc. Donc il y avait un peu cette idée qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une expérience un peu d'ouverture, c'est-à-dire que, alors qu'auparavant, en fait, on était très très éloigné du monde, voire même que l'on pouvait s'en soucier relativement peu, soudainement, en fait, le monde a rattrapé l'individu, il est tenu, en fait, d'avoir cette espèce de relation active. Alors, je ne suis pas du tout en train de fétichiser la guerre en disant que du coup, forcément, la guerre est une expérience extrêmement plaisante. Absolument pas. Je suis en train simplement de dire, en fait, l'ambivalence des rapports que les uns et les autres peuvent entretenir, en fait, avec ce moment. Un autre exemple qui est très frappant, c'est le fait de se retrouver des solidarités. C'est-à-dire que on ne fait pas la guerre tout seul, On la fait toujours, en fait, avec des groupes de volontaires, avec des nouvelles, entre guillemets, des nouvelles solidarités, amitiés. Et donc, il y a cette expérience de l'être ensemble, qui est absolument intensifié, contrairement évidemment à la vie en paix, où peut-être que les vies ont des séparations beaucoup plus rigides. Et l'autre point, moi, qui m'intéresse, et là, sur le coup, je ne peux pas encore faire de comparaison, parce que la guerre en Ukraine est encore, alors c'est difficile de le dire de cette façon-là, mais elle était encore récente, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir ce que, en fait, cette expérience dans la durée de la violence, cette expérience dans la durée de l'écoulement du monde, comment ça transforme le sujet et comment aussi ça peut le raidir, comment ça peut le crisper, comment ça peut, en fait, le clôturer. C'est-à-dire que cette ouverture initiale dont je viens de parler, où il y a quelque chose de l'ordre, d'espoir, en fait, de quelque chose à venir, dans le cas de l'Ukraine, par exemple, il paraissait assez évident que pour beaucoup de personnes, ils étaient aussi agités par l'idée, bien sûr, de défendre le territoire ukrainien, mais ils étaient aussi, il y avait une façon aussi de redécouvrir l'Ukraine, redécouvrir sa culture, sa morale, son histoire, etc. Et ça, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, en fait, dans le chaos, en fait, qui pousse, en fait, tout simplement à se retrouver un petit peu ses racines, en tout cas, les réfléchir à nouveau, quoi, sa langue, etc. Quoi. Bref, mais à cette ouverture de départ peut correspondre aussi à un moment de clôture, c'est-à-dire progressivement, en fait, à mesure que le monde est tellement chaotisé, eh bien, il peut y avoir des tendances à se retrouver des centres, à se retrouver des centres qui sont assez rigides. Alors, dans le cas, évidemment, de la Syrie, c'était très net, parce que dans le cas de la Syrie, on est passé, en fait, de quelque chose de très, très révolutionnaire à quelque chose qui est devenu beaucoup plus crispé autour d'une lecture, dans un certain nombre de cas, extrêmement unilatérale, en fait, de l'islam, quoi. Et donc, le motif, par exemple, religieux, a pris de l'importance à mesure que, justement, la guerre s'enlisait, et à mesure, précisément, aussi, que les buts révolutionnaires étaient en train de se fatiguer, quoi. Et donc, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment, en fait, la guerre abîme, c'est pas assez fort comme mot, hein. Détruit en fait la subjectivité de l'individu. Donc si je devais un petit peu résumer, il y a vraiment cette idée d'essayer de comprendre à la fois cette phase un peu d'ouverture, d'attraction, de puissance retrouvée à l'intérieur même de la guerre, et en même temps bien sûr aussi l'effondrement, l'écroulement intérieur en fait de l'individu plus la guerre dure. Exemple, la question de la haine. Dans quelle mesure, en fait, le rapport, par exemple, à l'ennemi n'est plus simplement un rapport, en fait, objectif et rationnel, en fait, de devoir lutter contre un ennemi qui en veut, par exemple, à son propre pays, et le fait d'avoir, par exemple, un rapport de haine dirigé de façon plus ou moins indistincte, par exemple, à l'égard du peuple russe, si je vais le dire de façon très, très succincte et simplifiée, quoi. Vous voyez, donc, comment, en fait, ces rapports-là, ces rapports de haine qui sont des rapports de clôture, peuvent s'installer à mesure, évidemment, que tous les repères qui constituent une vie, tout simplement, ne sont plus stables, ne sont plus solides, quoi. Et donc, voilà, c'est un peu ce travail-là que j'essaie de faire. Alors, bien sûr, les différences, elles sont fondamentales, ne serait-ce que par la forme de la guerre. En Syrie, on a un État qui fait la guerre à des insurgés qui ont une puissance militaire, une puissance matérielle très, très limitée, hein. Donc, on a des avions contre des gens qui tirent à la calache des avions, quoi. Ou parfois avec des armes un tout petit peu plus lourdes, mais globalement, en fait, une asymétrie militaire assez, assez radicale. En Ukraine, on a deux puissances militaires quand même qui s'effondrent avec une très, très grosse intensité. Alors évidemment, ça change aussi en termes d'organisation. C'est-à-dire que l'organisation... moi, j'étais très impressionné par la façon dont, à la fois, l'armée ukrainienne était elle-même organisée, mais elle aussi, à la fois, comment la défense territoriale s'est organisée extrêmement rapidement pour tout simplement essayer de supporter ce qui était en train d'arriver et de, évidemment, alors là aussi, hein, que ce soit d'un point de vue militaire ou d'un point de vue humanitaire, quoi. Donc ça, c'est quand même des distinctions qui sont importantes parce que forcément, en fait, la guerre ne se vit pas de la même manière. Et autre point aussi, c'est le soutien, en fait, l'attention publique. L'attention publique entre la Syrie et l'Ukraine n'a jamais été la même, quoi. C'est-à-dire que la révolution syrienne a été assez largement disqualifiée, en tout cas, dès son commencement, en tout cas, a reçu un soutien extrêmement limité de la part d'un certain nombre de puissances, et en particulier d'ailleurs des puissances occidentales, quoi. Ça a des effets considérables, évidemment, sur le sentiment d'être complètement isolé, le sentiment d'être un peu seul contre tous. Là aussi, ça favorise évidemment l'écroulement du sujet, quoi. C'est-à-dire que ça favorise l'écroulement de l'individu, quoi, qui, évidemment, pourrait en retour se cramponner, en fait, à des systèmes de conviction plus étroits, se cramponner, en fait, à ses frères de lutte, hein, c'est-à-dire aux solidarités à l'intérieur même de sa propre brigade. En tout cas, c'est ce que j'ai observé, c'est ce que j'essaie de raconter à travers l'histoire de quelques-uns d'entre eux, quoi. En Ukraine, l'attention publique internationale est beaucoup plus soutenue, évidemment, comme on le sait. Là aussi, ça a des effets considérables, peut-être justement pour, je l'espère, en tout cas pour préserver, en fait, un rapport... comment dire, un rapport à la guerre, on va dire, entre guillemets, rationnel, c'est-à-dire, en fait, se préserver, en fait, des folies meurtrières, se préserver, en fait, de ce que j'avais appelé tout à l'heure la haine, etc., quoi. Donc, ça, c'est des comment on pourrait appeler ça, on va dire que c'est des formes de retenue, en fait, de retenue morale, quoi, qui permet, évidemment, que le sujet, que l'individu, pardon, ne s'effondre pas tout à fait, quoi.
Tout à fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé voilà, ces pages consacrées, bon, ils sont plusieurs en fait dans ton livre, consacrées à cette description de la vie, de la guerre, comme cette vie intense en fait qui bouleverse bien sûr la vie des individus, propose d'autres points de repère, voilà, après cet effondrement de la normalité, comment les gens s'y retrouvent, voilà, ce que tu décris comme cette première phase avec adrénaline, avec voilà, le sentiment d'être au centre du monde, voilà, tout ça, ça correspond, c'est très honnête de le remarquer, de le dire, de le décrire, de le saisir en fait, parce que c'est une chose qui échappe d'une manière ou d'une autre à d'autres observateurs de la guerre qui pensent plutôt dans les termes géopolitiques ou bien termes historiques, ça c'est très juste en fait. Mais voilà, cette opposition, voilà, cette autre phase que tu décris, la phase de crispation, voilà, de crispé, la haine, etc. Je dirais que voilà, dans cette phase où on en est aujourd'hui, en tout cas en Ukraine, dans cette phase de cette guerre longue, on constate la présence d'une autre chose qui existe, et donc j'aimerais ta réflexion là-dessus. Quand on parle aujourd'hui, on est à la veille de le deuxième anniversaire, si on peut dire comme ça, de cette grande invasion, voilà, comment les gens engagés, les militaires, voilà, décrivent ce qui, les volontaires aussi, décrivent ce qu'ils font. Ils emploient le mot, l'expression le travail de la guerre. C'est-à-dire que ce n'est l'un ni l'autre. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de cette vie intense, aventurière, et il ne s'agit non plus de cette fermeture, la haine de l'ennemi sommaire, etc. Il s'agit d'un travail routinier, en fait, de la destruction de l'ennemi, routine, travail. C'est même entré dans le discours des médias. Le travail, on a éliminé autant d'ennemis, c'est un travail de militaire, donc voilà, comme si la guerre pouvait devenir un travail aussi monotone, je dirais quotidien, comme la vie d'avant la guerre, qui ne propose plus ni d'ouverture ni de cette haine. Quelle serait ta réflexion là-dessus ?
Non, mais complètement. Et ça, c'est évidemment un signe d'une guerre qui traîne, quoi. Qui traîne en longueur. Et c'est une façon aussi de préparer les uns et les autres à une durée probablement encore longue. Et donc, ce basculement-là, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que, autant au début, il y a une forme de présent très intensifié, d'une vie extrêmement intense, et dans laquelle il y a un espèce d'enthousiasme aussi collectif, hein, où justement, les solidarités se font beaucoup plus évidentes et intenses. Bon, moi, je me souviens de groupes de volontaires qui nous expliquent combien le voisin, avant de fuir, a donné ses clés de voiture, a donné ses clés d'appartement, etc., et a donné tout ce qu'ils pouvaient en fait aux volontaires pour contribuer d'une certaine manière en fait à aider le pays, quoi. Et plein de situations de cette façon-là où on a des engagements qui ne calculent pas, quoi, des engagements en fait qui sont quasiment le produit des nerfs, quoi, hein, de la vivacité intérieure en fait, qui fait que bien là je suis pas dans un rapport rationnel à ce que je perds ou ce que je perds pas, quoi. C'est viscéral, quoi. Évidemment, ça dure qu'un temps, quoi, parce que plus les choses traînent, bah aussi, par exemple, à l'intérieur des groupes, on peut observer des débuts de querelles, des divisions, des conflits, évidemment, qui peuvent tout à fait exister. Une vie en commun, on sait combien elle est difficile à conduire, et une vie en commun dans un contexte de tension permanent, évidemment, aussi, on peut supposer que ça peut user, en fait, ou fatiguer les rapports sociaux, quoi. Et donc, on risque de rentrer dans une autre phase qui est, c'est sur le coup, en fait, une phase quasi de professionnalisation de la guerre, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces volontaires et tous ces gens qui autrefois n'étaient pas préparés, maintenant savent faire la guerre, quoi. Et la font comme un nouveau travail. C'est-à-dire que ce qui était complètement défamiliarisé, ce qui était un état, moi, que j'avais appelé astructurel, eh bien devient en fait la nouvelle structure, une nouvelle familiarité. Et donc, des nouvelles habitudes, effectivement, une quotidienneté, voire même d'ailleurs une quotidienneté en fait qui peut avoir sa part d'ennui. Hein. Dans mon livre, je consacre beaucoup de pages en fait sur la question, sur l'expérience de l'ennui à l'intérieur de la guerre. On en parle relativement beaucoup trop peu, quoi, alors qu'elle est évidemment très, très présente, quoi. Donc cette phase de professionnalisation, elle peut s'accompagner aussi, alors ça je l'avais absolument repéré en Syrie, hein, mais en Ukraine, ça je ne m'avancerai pas trop sur ce point-là, mais elle peut s'accompagner aussi parfois d'un espèce d'intérêt en fait à ce que la guerre continue, quoi. Au sens où, en Syrie par exemple, j'observais toute une série de combattants en fait qui n'imaginaient pas un retour possible à la vie civile. Il ne l'imaginait pas parce que c'est pour des questions tout à fait matérielles, parce que finalement, au fond, ça faisait tellement longtemps qu'ils étaient en train de combattre que c'était devenu, en fait, leur nouveau métier. Comme, que deuxièmement, en fait, quand on a les honneurs de participer dans une brigade, la dignité, en fait, du combattant, retourner dans un travail tout à fait banal dans la vie civile est une chose difficile. Ce sur quoi, ici, j'essaie d'ouvrir, c'est une réflexion qu'on doit absolument avoir et qu'il faut déjà préparer maintenant, qu'il faut déjà réfléchir maintenant, c'est la sortie de la violence, le retour en fait à la paix, quoi. Et ce retour à la paix, très relatif évidemment dans certaines villes en Ukraine, mais j'ai pu le constater par exemple, non pas la démobilisation des volontaires, mais le retour quand même de volontaires dans certaines villes en fait à une vie, à leur vie d'autrefois, quoi, c'est-à-dire à une espèce de vie civile et progressivement en fait un désengagement parce que par exemple, parce que l'ennemi russe a été éloigné de la ville, eh bien un retour progressif en fait à une espèce de vie normale. Et ça, c'est un coût subjectif qui est absolument gigantesque. C'est très difficile à vivre, quoi. Et on observe évidemment beaucoup de personnes qui éprouvent une très grande difficulté, en fait, à se retrouver des nouvelles habitudes, c'est-à-dire à retrouver, en fait, une espèce de vie en paix, quoi. Et donc, moi aussi, là, c'est encore un truc que j'essaye effectivement de travailler. C'est à la fois, en fait, quand la guerre s'enlise et qu'elle prenne la forme d'une professionnalisation, c'est-à-dire d'un travail à faire, quoi, eh bien, progressivement aussi, bah, comment elle peut enfermer, clôturer, en fait, l'individu, eh bien, uniquement, en fait, dans l'expérience militaire. Alors, voilà, quelles sont les possibilités de retour à la vie civile? Est-ce que chacun va retourner à la vie civile dans des activités, on va dire, policières, militaires, j'en sais rien. Ça, c'est bien trop tôt pour le dire, mais c'est plutôt, en fait, un point d'alerte, en fait, hein, sur le retour à la vie normale, sur la sortie de la violence. C'est là aussi qu'il y a une réflexion qui est bien trop peu avancée aujourd'hui, alors qu'elle est, il me semble absolument fondamentale à conduire.
Oui, tout à fait. Et donc, toutes ces observations sont à faire aussi tant que la guerre dure. La guerre n'est pas tellement terminée en Syrie, elle n'est pas non plus terminée en Ukraine. On s'attend à cet enlisement qui peut durer, on sait bien, on ne sait pas combien de temps, peut-être très longtemps. Il y a une chose absolument intéressante, voire passionnante dans ton livre, c'est que toi, comme observateur, donc cette auto-réflexion sur ta place, tes sentiments, tes ressentis physiques aussi, ils sont partout présents dans le livre. Tu écris comment on se sent à l'intérieur de la guerre. Voilà, tu décris pas mal de moments, en tout cas quelques moments où le danger était réel. Par exemple, voilà, avec des missiles, c'était à Kramatorsk, n'est-ce pas, où tu as carrément vu le missile approcher ce centre volontaire qui était une espèce d'hangar, n'est-ce pas. Et donc, voilà, et donc tout ça, voilà, donc tout ce travail de décrire comment, et de cette auto-réflexion qui est là, donc c'est pas uniquement que tu décris des objets, des motivations des autres, mais tu décris aussi comment on se sent à l'intérieur avec un statut clair pour toi, mais peut-être pas tellement clair pour les gens à côté, parce que tu n'es pas vraiment une figure habituelle, c'est-à-dire tu n'es pas un homme avec caméra, comme d'habitude les journalistes. Qu'est-ce qu'on peut chercher dans la guerre? Donc les gens ordinaires se posent bien des questions. Donc voilà, est-ce que tu peux décrire, en fait, nous donner un résumé? Je comprends que c'est difficile, mais voilà, un certain résumé, voilà, de comment est-ce que toi tu avais vécu ces deux guerres, que ce soit en Syrie, que ce soit en Ukraine. Est-ce qu'il y a une force qui transforme aussi un observateur quand tu te retrouves à l'intérieur d'une guerre qui n'est pas la tienne?
C'est des questions vraiment passionnantes et difficiles, mais ce sur quoi, en fait, en tout cas, le parti pris qui a été le mien, c'est que je ne voulais pas faire semblant d'être un espèce d'observateur tout à fait neutre qui n'était pas affecté par ce qu'il observait et donc, tel un bon scientifique, raconter le monde rationnellement, en fait, du point de vue des gens qui le vivent, quoi. Ça, j'essaie de le faire, en tout cas, dans le livre, il m'importe, en tout cas, de raconter la façon dont, que ce soit des combattants syriens ou ukrainiens, eh bien, ils ont vécu la guerre, comment ils la vivent, etc. Mais j'ai voulu aussi, en fait, parler du point de vue singulier qui était le mien, ou de mes sensations, ou de mes affects, ou de mes tiraillements, de mon ambiguïté dans un certain nombre de cas par rapport à ce que j'étais en train de voir. Hein. Par exemple, pourquoi se rapprocher des fronts? Est-ce que finalement, en fait, c'était si nécessaire de vouloir faire l'expérience du front? Par exemple, Tchassiviar, l'année dernière, est-ce que c'était nécessaire d'y aller alors que, bon, je savais déjà à quoi ça ressemblait, quoi. Donc, il y a une espèce de pouvoir d'attraction qui est qui peut être en fait un peu, en tout cas questionnable, je sais pas, peut-être un peu malsain aussi. Enfin, il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une recherche en fait d'un état d'effarement, de sidération, c'est-à-dire oui, c'est pas abstrait, le monde est vraiment en train de s'écrouler, ça se passe effectivement comme ça. Et puis en fait, et pas que ça. Et je ne voudrais pas limiter à cela, parce que sinon, en fait, on est simplement en train de dire, oui, il y a une quête d'adrénaline. De toute façon, les journalistes de guerre ou les reporters de guerre sont toujours animés, en fait, par l'événement en fait, spectaculaire qui va arriver. Moi, je ne crois pas que c'est ce qui m'anime particulièrement, même si, oui, quand tu racontes là les deux missiles que j'ai vus s'abattre juste à côté du centre de volontaires dans lequel on était sur la route où on venait de passer... Qu'est-ce qui s'est passé après? La première chose que j'ai faite, je crois que j'ai envoyé un message à des connaissances pour raconter ce qui s'était passé, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre, je voulais le partager. Et pourquoi je voulais le partager? À la fois pour me dire que ça avait bel et bien existé, et puis avec aussi ce rapport d'être, ouais, j'ai été témoin de ça, en fait. J'ai vraiment été témoin de ça. Vous voyez, c'est ambivalent, en fait, ce genre d'affect, ce genre de sentiment, ce genre de pensée. Et j'ai voulu essayer de restituer un petit peu cette ambivalence. Et puis, bien sûr, il y a un petit peu aussi cette idée de se dire, tout mon livre, en fait, essaie de réfléchir sur comment, en fait, la guerre transforme les gens qui la vivent, et comment aussi, moi, elle a pu me transformer, en fait, et comment, en fait, quand je parlais du retour, par exemple, à la vie normale, le retour à la vie normale, moi, je l'ai trouvé extrêmement difficile, même si, alors, moi, j'ai une expérience beaucoup moins longue que ceux qui la vivent, mais malgré tout, en fait, revenir à l'université et retrouver, en fait, un quotidien banal, ça met un peu de temps, en fait, après ces expériences. Je vais prendre un exemple, mais quand je suis retourné pour la première fois en Ukraine en 2022, sur un séjour d'un mois, d'ailleurs, on s'était rencontrés. Moi, j'avais vécu ce séjour-là avec une telle intensité dans l'observation, une telle intensité, en fait, de découvrir tous ces volontaires qui me racontaient leur histoire, tous ces volontaires qui leur racontaient, mais pas avec détachement, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre, vous voyez, un rapport très, très vivant, en fait, à ce qu'ils étaient en train de... à leur histoire, à ce qui était arrivé, parce que tout ça était très récent d'ailleurs. Et donc, en fait, il y a une espèce de passion du présent, quoi, et l'observation. Enfin, quand on est observateur, on est complètement saisi, quoi. Il y a une espèce d'intensité, mais là, cette fois-ci, c'est pas une intensité dangereuse, hein, c'est une intensité dans les discours reçus, quoi. Et ça, je peux vous dire que quand vous revenez ensuite en France et que, bah, voilà, vous retrouvez une quotidienneté où les conversations sont plus ou moins banales, en tout cas généralement relativement peu intense, ouais, ça fait quelque chose, ça affaiblit en tout cas un petit peu moralement, quoi. Donc c'est ça qui fait qu'il y a à chaque fois ce désir, mais qui n'est pas seulement ça, hein, mais ce désir de revenir, il est évidemment un truc absolument individuel, de recherche, d'intensification peut-être de son travail, de son regard, etc. Mais il y a surtout aussi, bien sûr, le désir de ne de continuer à être le témoin, de continuer en fait à suivre ces gens que j'ai rencontrés. Moi, j'ai une espèce de très grande, enfin, je crois, une très grande fidélité aux gens que j'ai rencontrés. Et pour moi, ça m'importe vraiment de les suivre dans leur quotidien, même si ça peut paraître bizarre que je sois avec eux, quoi. Parfois, je suis même bien encombrant, en fait, pour eux, quoi. Et en même temps, j'ai senti aussi qu'un certain nombre de cas, parce que je suis toujours allé voir les mêmes volontaires, hein, quasiment à chaque fois, c'est-à-dire que je les retrouvais à chaque fois, les gens que j'avais rencontrés précédemment, mais j'ai senti aussi que ça leur faisait un peu de bien, en fait, ma présence, même si elle ne servait à rien, hein, d'un point de vue pratique. Ça leur faisait un peu de bien parce que c'était quelqu'un d'extérieur qui arrivait, c'était quelqu'un qui écrivait leur histoire, c'est quelqu'un qui est un peu témoin de ce qu'ils sont en train de vivre. Et ça nous permet de lutter contre un truc qui est très présent dans la guerre, c'est le sentiment d'irréalité. Sentiment d'irréalité, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'on peut déréaliser ce qui est arrivé. Est-ce que les choses sont bel et bien arrivées, comme je suis en train de le dire? Elles sont tellement parfois extravagantes que je ne suis pas sûr, en fait, que ça soit certain. Quand quelqu'un vient me le raconter, au moins, ça gagne en réalité, quoi. Je dis ça sur un exemple personnel que je raconte d'ailleurs dans le livre exactement en ces termes, en Syrie, où il y a une série de prisonniers, en fait, de l'armée de Bachar al-Assad, ou je sais pas, en tout cas de Bachar al-Assad, qui sont amenés dans le camp. Ils ont les mains attachées, ils ont les yeux cachés, etc. Et donc le combattant me fait une blague en me disant ils ont une maladie des yeux, etc. Puis on monte dans le bureau et ensuite j'entends des coups de feu. Mais en fait, très honnêtement, je sais pas si c'est mon imagination, si c'est ce qui est arrivé, quoi. Je sais pas. Vous voyez, ça, c'est un moment de déréalisation, c'est un moment de protection, en fait, face au réel, quoi. Et donc, j'ai un peu cet acharnement, en fait, à vouloir écrire ce qui se passe, et j'espère aussi dans ces portraits, et souvent je communique avec les gens qui sont en Ukraine là, en ce moment, pas plus tard que hier, je discutais avec celui avec qui j'avais vécu ce truc à Kramatorsk qui s'appelle Marc. Vous voyez, il y a aussi cette volonté de... Ce sont pas, pour moi, je n'observe pas des gens, quoi. Je vis un peu avec eux, et j'ai des rapports aussi qui sont des rapports aussi d'amitié, quoi. En tout cas, de formes d'amitié qui sont importantes. C'est important, je pense aussi, de le préciser, parce que je ne suis pas journaliste, quoi. Je dis pas de mal, hein, des journalistes, absolument pas. Mais je suis pas journaliste au sens où moi je cherche pas en fait un événement, je cherche pas en fait à multiplier les rencontres. Je cherche simplement en fait à tisser des liens dans la durée avec les gens.
Oui, oui. D'ailleurs, en parlant de journaliste, je remets très bien ces quelques pages dans ton livre où tu parles avec une véritable colère. Voilà, tu es au centre, voilà, où des évacuations des civils, des zones, voilà, en combat. Donc, les gens partent, les civils, les pauvres civils partent vers Dnipro. Et tu décris avec beaucoup de colère les journalistes avec leurs caméras qui sautent littéralement sur les civils qui ont tout perdu. Donc, en recherche d'un angle le plus intéressant. Et donc, les gens sont évacués pendant des heures et des heures. Toi, tu fais tout ce trajet avec ces civils depuis les zones de combat jusqu'à la ville de Dnipro, voilà, avec le train qui ne part pas pendant 3-4 heures, avec une chaleur incroyable. Donc, tout ça. Et donc, cette expérience, voilà, de traiter les gens, de victimes de la guerre, uniquement comme objet, voilà, objet pour modèle, pour photo, à quel point c'est inapproprié. Quand on vit cette guerre, quand on est avec des gens qui souffrent, Tu avais évoqué, voilà, cette difficulté de rentrer en France et puis de parler avec les autres. Tu cites d'ailleurs dans ton livre cette phrase qui m'a aussi frappée, voilà, cette phrase qu'on ne rentre pas muet de la guerre, mais on le devient. On le devient muet parce qu'il y a à qui parler. Et donc, c'est vrai que cette vie intense dans la guerre, elle est, donc les récits irréels, en quelque sorte, ils ont du mal à passer dans les contextes qui sont éloignés de la guerre, et on se sent quand même un peu seul avec ces récits, n'est-ce pas ?
Oui, complètement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une célèbre phrase de Walter Benjamin, philosophe, à partir de l'expérience de la Première Guerre mondiale, où les hommes rentrent muets des combats, quoi. Mais en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'évidemment, en fait, du récit, on a beaucoup de choses à raconter, mais pas d'interlocuteurs, ou très peu d'interlocuteurs. C'est-à-dire que même les gens les plus proches, hein, parce qu'il y a une forme à la fois de pudeur vis-à-vis de ce que l'on pourrait avoir vu, ce que l'on pourrait avoir, ou voire même peut-être même d'ailleurs parfois, en fait, ce qui intéresse, c'est est-ce que tu as vu des bombardements, est-ce que tu as vu en fait des situations exceptionnelles et tragiques même de la guerre. Or, c'est pas de ça dont il faut, enfin, je dis pas qu'il faut pas en parler, hein, mais la chose qui est vraiment importante et intéressante, enfin, me semble-t-il, quoi, un véritable sujet de conversation, mais qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train d'arriver en Ukraine? Qu'est-ce qui est en train d'arriver en Syrie? Comment les uns et les autres sont en train de le vivre? C'est-à-dire, en fait, lutter contre l'effacement, quoi. Lutter contre l'oubli. On voit bien que, par exemple, l'opinion publique vis-à-vis de l'Ukraine n'est plus du tout la même maintenant, en fait, qu'au commencement de la guerre. Au commencement de la guerre, il y avait des mobilisations un petit peu partout, dans lesquelles c'était un sujet de préoccupation, quoi. Et puis, progressivement, en fait, à mesure qu'on s'habitue à ce que ça existe, ça paraît de plus en plus lointain, et c'est soustrait maintenant des sujets de conversation, quoi. C'est soustrait, en tout cas, de beaucoup de sujets de conversation, quoi. Et donc, l'idée, c'est comment en parler, quoi. Et effectivement, dans la vie ordinaire, c'est très, très difficile d'en parler. Et donc, pour moi, écrire ce livre-là, ça a été important, parce que c'était une manière aussi, moi, justement, de parler. Pendant longtemps, je n'ai pas écrit. Enfin, j'ai vraiment réécrit à partir de l'expérience en Ukraine, quoi, où il se trouve que sur place, j'ai beaucoup écrit, quoi. Et donc, ça m'a fait du bien, en fait, d'écrire ces expériences-là, parce qu'il y a eu un effet quasi thérapeutique vis-à-vis de moi-même, quoi. Et surtout, ça m'a permis de réouvrir, en fait, ce que j'avais laissé un petit peu en friche en Syrie, où j'avais écrit juste deux articles ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était pas vraiment très avancé, quoi. Et donc, l'écrire, c'était une façon aussi, bien sûr, de lutter contre l'effacement, de lutter contre la disparition. Et mon espoir, c'est celui-ci aussi, hein, c'est que justement, en fait, qu'on n'oublie jamais quelque chose qui est quand même extrêmement important, c'est que ce sont bien des vies concrètes, des vies singulières, en fait, qui sont en train de se briser en Ukraine, en ce moment, en Syrie, etc. Quoi, que ce sont, et que ça, on ne peut pas déshumaniser ce qui est en train d'arriver, quoi. Alors, c'est pas, je ne suis pas dans un discours très, très naïf, etc., sur ce sujet-là, mais je dis simplement qu'en fait, ce ne sont pas que des affaires de géopolitique, d'armement, de ci, de ça, etc. C'est aussi, en fait, des affaires d'existence concrète qui sont bouleversées par la guerre. Et ça, pour moi, c'est ça qui m'importe de dire dans mon travail.
Oui, tout à fait. Et donc, ce livre, voilà, qui attire l'attention publique, une fois de plus, sur le cas en Ukraine, la guerre qui n'est pas terminée et qui a besoin de soutien, qui a besoin de cette solidarité internationale, y compris la solidarité française. Donc, voilà, c'est de cet intérêt qui peut se traduire, qui doit se traduire, en tout cas, vu de l'Ukraine, doit se traduire en cette aide financière, cette aide militaire, puisque c'est une guerre qui concerne tout le monde, et donc le fait de réveiller les consciences, c'est très important. Ma dernière question à toi, Romain, il porterait sur, voilà, j'ai retenu cette phrase d'Albert Camus, célèbre écrivain, philosophe français, et tu la cites au début dans les premières pages, je crois, de ton livre, quand tu décris cette première phase, je crois, en Syrie, en fait, voilà, cette ouverture vers le monde, que la justice est supérieure à la vie. Donc, voilà, dans cette approche ethnographique, tu fais exprès de ne pas prendre en considération des motivations extérieures, c'est-à-dire politiques, c'est-à-dire voilà, de la cause juste, etc. Mais on ne peut pas à la fois totalement évacuer. Donc si la guerre continue, en tout cas du côté ukrainien, c'est parce que les gens, malgré tout, malgré toutes les phases qui se succèdent, enthousiasme, fatigue, travail, haine, etc., il y a quand même voilà, ce sentiment de la cause juste. Parce que si on continue à faire la guerre, c'est parce qu'on sait, on comprend, on admet que cette justice ultime, elle est supérieure à la vie humaine. Est-ce que toi, comme ethnographe, tu adhères à ça?
Oui, bien sûr, complètement. Et cette phrase-là, pour moi, elle est importante parce que, en fait, il n'y a que dans des situations révolutionnaires ou de conflit que l'on envisage, en fait, ce genre de choses. En France, si vous dites que la justice est supérieure à la vie, les gens diraient, ouais, théoriquement, oui, probablement, quoi. Mais de fait, la vie de tous les jours, évidemment, n'est pas engagée dans ce rapport très intime, en fait, à l'idée même de la justice, jusqu'à, en fait, exposer son corps à la blessure, exposer son corps à la mort, quoi. Or, en fait, dans un contexte de conflit armé, évidemment, ici, c'est que ces idées qui soutiennent, ces idées qui font redresser les corps, c'est des idées, en fait, de justice, c'est des idées de dignité, c'est des idées, en fait, évidemment très classiques, hein, et évidemment dans la filiation révolutionnaire, mais qui anime l'individu, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un retour, en tout cas un rapport, en fait, à des espèces de valeurs, entre guillemets, un petit peu supérieures. Donc, évidemment, le fait que la question, en fait, de savoir si la cause est juste ou pas, en fait, évidemment, ça ne faisait pas, elle ne fait pas de doute pour les combattants sur place, quoi. Dans la mesure où là aussi, on est dans quelque chose de très net, on n'est pas dans un combat idéologique ici, on est concrètement, en fait, dans un peuple, le peuple ukrainien, qui est menacé de disparition. C'est concret, quoi. Donc là, ici, j'ai l'impression que, autant en Syrie, évidemment, il y avait beaucoup de débats sur les buts révolutionnaires, sur ci, sur ça, etc. Autant, en fait, la question de la justesse de la cause, de défendre, en fait, un peuple menacé de disparition, de défendre un territoire, ça ne fait pas de doute, quoi. Et ça, de ce point de vue-là, je traite assez peu dans le livre, parce que ça me paraît, en fait, tout à fait évident, quoi. Mais voilà, ce sur quoi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est dans les ressorts de l'action, évidemment, il y a un attachement très clair à des valeurs qui, dans la vie quotidienne, en fait, en paix, sont souvent relayées, en fait, un peu au second plan, quoi. C'est-à-dire qu'on s'y rapporte beaucoup moins, en fait, dans la vie ordinaire, quoi.
Merci beaucoup Romain, merci pour ton livre, voilà, pour cet entretien et pour ton livre, pour ton soutien en Ukraine. On espère te voir ici sur le terrain, peut-être très prochainement. Je rappelle à nos auditeurs que tu es auteur du livre La guerre en tête, de la Syrie à l'Ukraine, le livre que vous pouvez acheter déjà dans les librairies parisiennes ou françaises ailleurs dans le monde. Merci beaucoup Romain.
Merci.
Face à la guerre, n'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Romain Huet, maître de conférence à l'Université Rennes 2, auteur de l'ouvrage « La guerre en tête, sur le front de la Syrie à l'Ukraine ». Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.